RLP.
Lui, et moi, c'est moi. Oui.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâne, au secours!
Cet adversaire. C'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui dit une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
RLP.
Bonjour, ô Périgord, petit peuple de maquis au milieu de cette forêt de collectivités, de landes et de frontières traçant de nouvelles représentations territoriales. Mais ne crions pas, Jeanne, au secours, comme le bellâtre dans notre générique, car nous devrions avoir compris où cette nouvelle donne nous mène. On ne sait pas trop, mais à part ceux qui l'ont fait et quelques autres, on a l'impression d'être devant le père Fouras. C'est plein d'énigmes. On sait que c'est organisé comme une immense chasse au trésor. Pour les investisseurs, c'est sûr. Pour les étudiants, probablement. Et pour les autres, on verra ça quand tu seras grande, petite Europe. Alors, une fois n'est pas coutume, bienvenue pour un sujet critique et critiqué, parce que, servi à la sauce économique, oubliant le « nous », je parle du peuple du Caucase, qui depuis les Galates, de Belle-Île en mer à la Galice, de Galata au cœur d'Istanbul jusqu'à l'Afghanistan, de Minsk à Alger, et oui, quel malheur qu'un peuple se réunisse moins par ses particularités visibles et physiques que par ses probabilités invisibles. Enfin bref, bienvenue sur RLP dans la bonne question. Nos invités du moment sont Basile Fagnier, tu es conseiller municipal et communautaire de Sarlat-la-Canéda, président des LR, bon, les Républicains...
De Dordogne, il faut le préciser.
De Dordogne. Et tu te revendiques gaulliste. Bonjour Basile. Et
bienvenue. Bonjour à tous.
Nous avons également Clément Bijoux, originaire de Périgueux, ancien professeur d'agronomie, actuellement directeur de cabinet à la ville de Périgueux et conseiller municipal à Val-de-Loure.
Val-de-Louire-et-Caudeau.
De Louire-et-Caudeau.
Commune fusionnée.
C'est une petite commune de Dordogne et tu es également secrétaire fédéral en charge des questions européennes au Parti socialiste de Dordogne.
C'est ça.
Bonjour Clément, à toi aussi et bienvenue.
Bonjour à tous.
Il y aura aussi Éric Andrieux, qui n'est pas là mais qui sera là, qui est député européen et qu'on a interviewé avec Stéphane. On passera des passages de lui et des passages de Jacques Ozou qu'on avait déjà interrogé sur une autre émission. Éric Andrieux, d'ailleurs, que vous pourrez retrouver en complément de cette émission, on va mettre un podcast de l'interview complète, donc en parallèle. Est présent également mon camarade Stéphane.
Bonjour à tous.
Ça va, t'es en forme ?
Oh, ça va.
Ouais ? T'as bien mangé à midi ?
Parfait.
Stéphane, faut le dire, t'es notre chercheur qui se faufile dans les méandres historiques de la République à la française, celle qu'on nous envie tous. Ouais, non, je ne parle pas de la colonisation, je parle de celle du gang des Napoléons 1 et 3 jusqu'à la dignité d'Ambroise Croizat. Vous voyez un petit peu le secteur de l'administratif, économique et vie sociale. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Donc aujourd'hui, l'Europe. Pour commencer, est-ce que nos invités veulent rajouter quelque chose sur les présentations ?
Dire simplement qu'on est tous des Européens, peut-être.
Stéphane ? Non ? C'est bon ? On débute avec toi, Stéphane, et un petit parti pris, un petit laïus sur
là,
l'Europe.
Ce sera pas... On va changer un peu de format. C'est une ode à l'Europe. Mais l'Europe, au sens général du terme.
Une ode ?
Une ode.
Allez, je te laisse. Voilà. Vas-y pour l'ode.
Alors, ode à l'Europe. Europe, tu es un petit bout de terre, péninsule ouest du supercontinent eurasien. Ton relief est varié et tes fleuves nombreuses et diverses. L'eau ne manque pas. Tu es une terre bénie des dieux et justement ton nom, tu le dois à l'un d'entre eux, Zeus, qui, métamorphosé en taureau blanc, captura par ruse la belle Europe et la fit passer de l'Asie à notre continent. Tu vis l'apparition d'artistes, ces grottes où l'art rupestre fut la première forme d'expression de l'homme moderne. Puis de chasseurs-cueilleurs, tes enfants devinrent cultivateurs et sédentaires pour la plupart. Ton peuplement se faisait toujours d'est en ouest. Un jour, tu as appris à lire et à écrire en copiant sur ton voisin phénicien. Sur les bords de la mer Méditerranée, tu vis apparaître ta première civilisation. Tu n'étais pas un enfant précoce. Bien d'autres avant toi, sur d'autres continents, avaient déjà de grandes cités. La civilisation grecque te donna tes lettres de noblesse, en permettant l'éclosion des sciences, des arts et de la philosophie en ton sein. Bien sûr, tout ça n'est pas apparu ex nihilo, tu as su t'inspirer des contrées voisines. Un de tes enfants, Alexandre, ira même conquérir des territoires jusqu'aux plaines de l'Indus, là où des siècles auparavant est apparue la langue qui servira de matrice à toutes les langues européennes. Mais les empires n'ont qu'un temps. Les Celtes peuplèrent une grande partie de ton territoire avant d'être asservis par une nouvelle civilisation. Rome régna sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Déjà, tes enfants turbulents commençaient à chercher querelle au voisinage. Et pendant ce temps, à Nazareth, naissait un homme qui bouleversa ton histoire. Mais les empires n'ont qu'un temps. La poussée de l'Est submergea l'ordre établi et le chaos qui s'ensuivit nous fit perdre une partie de notre mémoire collective. Charlemagne sut reconstruire un empire sur ce champ de ruines, mais après lui vint le temps de la Renaissance où tes peuples retrouvèrent une partie de leur histoire et de leur grandeur passée. Mais le ciment religieux se fissura et la réforme apparut, divisant dans le sang les peuples. De turbulent, ta progéniture devint tyrannique avec une soif de conquête et de richesse. Tu allas chercher des hommes d'une autre couleur pour asservir ta cupidité. Les cales de tes navires n'étaient que cris de souffrance et odeur de sang à l'aller et richesse au retour. Bien d'autres avant toi ont commis ce crime, mais ton développement en restera pour longtemps entaché. Pendant ce temps-là, les royaumes et les empires se font la guerre sur ton sol. L'Europe, c'est aussi la guerre. Heureusement, vint l'ère des Lumières, tes enfants purent aller de l'avant. Une révolution, en France, bouleversa ton visage politique. Plus tard, un certain Napoléon Bonaparte eut l'ambition d'unir tous les peuples sous son étendard. La guerre encore, la guerre. Arriva la révolution industrielle, qui marquera profondément la face de la planète pour des siècles à venir. Puissant, arrogant, aucun territoire ne t'est inaccessible. Tu enjambes les océans, et de l'autre côté de l'Atlantique émerge une puissance issue de tes entrailles, les États-Unis d'Amérique. Les empires n'ont qu'un temps. Pendant ce temps, sur ton flanc est apparaît une nouvelle idéologie qui bouleversera l'humanité pour le meilleur et surtout pour le pire. Certains de tes enfants, devenus démons, perpétreront le pire des crimes, le génocide à échelle industrielle. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, une fois cette boucherie terminée, tu te divises en deux, Est et Ouest. Pourtant subsiste un petit rayon de soleil. Une partie de tes enfants comprennent qu'il vaut mieux s'entendre. L'Union européenne ne fera que croître en incorporant de nouveaux peuples et territoires. Mais que la route est longue et difficile. Suivons pour cela la pensée d'Ernest Renan. L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses.
RLP.
C'est une certaine idée de l'Europe qu'on va présenter dans l'émission. On va commencer par une petite question à nos invités. Pour vous, est-ce que les citoyens connaissent vraiment les élus européens ? Est-ce qu'ils connaissent l'Europe vraiment ?
Oui, il y a une méconnaissance des élus européens, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance des institutions européennes, de leur rôle, de leur importance dans nos vies. Et l'Union européenne est une institution qui paraît éloignée du citoyen, qui a une image qui est très technocratique, parfois normative, alors que c'est une institution qui est profondément démocratique. C'est-à-dire des institutions, puisqu'il y a le Parlement, la Commission, le Conseil, et les gens ne savent pas en fait qui fait quoi. Donc les élus européens peuvent paraître éloignés physiquement, mais aussi dans la proximité démocratique, j'ai envie de dire.
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi il y a une démonstration de démocratie dans la construction de l'Europe ?
L'Europe, je veux dire, et le témoignage précédent nous raconte que l'histoire du continent européen est longue, mais l'histoire politique, je veux dire l'histoire unifiée, elle est très courte. Et la première fois où on a voté sur une démocratie directe représentative, c'est 1979. Donc il reste encore beaucoup à construire. Donc peut-être que le citoyen se sent éloigné de l'institution, éloigné du rôle du député européen, mais parce qu'en fait l'histoire politique elle est courte et ça faut en avoir conscience.
Est-ce qu'il y a un commentaire sur ce que vient de dire Clément ? Basile, est-ce que toi, tu veux bien nous dire si pour toi, les gens connaissent nos représentants, nos élus, et est-ce qu'ils connaissent bien l'Europe ?
Il y a, je crois, une méconnaissance de l'Europe et de l'Union européenne en particulier par les Français. Il suffit de regarder, par exemple, le taux de participation aux élections européennes. Il y a à peu près un Français sur deux qui vote à ces élections, quand on en a 8/10 à l'élection présidentielle. Et j'observe aussi qu'on ne parle de l'Europe qu'au moment des élections européennes. Et depuis les dernières élections européennes, avant, il y avait un vote par... il y avait des grandes circonscriptions régionales. Et en 2019, il y a eu des listes nationales. Et ce qui est intéressant, c'est que le parti qui se prétend le plus européen, à savoir celui d'Emmanuel Macron, est celui qui a envoyé... peut-être le plus illustre des inconnus, Nathalie Loiseau. Voilà. Donc il y a en effet une méconnaissance des citoyens qui est liée aussi, je crois, à l'Europe, qui n'a pas toujours respecté la parole des peuples, mais on est nombreux à avoir en mémoire, par exemple, le référendum de 2005, où les Français avaient voté non, et qui s'est transformé en 2007, mais ce n'est pas la responsabilité de la gauche ou de la droite, c'est la classe politique dans son ensemble, par le traité de Lisbonne, qui était véritablement une violation de la démocratie et de la souveraineté populaire. Et je reprenais d'ailleurs les chiffres, plus particulièrement en Périgord. En 1992, il y a 57% des Périgourdins qui ont voté contre Maastricht, et en 2005, il y a 62% des Périgourdins qui ont voté contre la Constitution européenne. Et donc il y a un sujet national, et il y a aussi un sujet périgourdin, pour des raisons dont on pourra peut-être débattre, mais cette Europe-là, qui n'a pas que des défauts, l'Europe est une belle idée, c'était l'idée de faire coopérer des nations qui autrefois étaient en guerre, mais elle est allée vers quelque chose, hélas, de technocratique, et qui s'est beaucoup assis aussi sur la volonté des peuples.
Clément, oui, c'est une analyse qui est juste, hein, bien sûr.
Mais du coup, ça me fait poser la question, est-ce qu'on est dans une vraie démocratie en Europe ?
Oui, on est dans une vraie démocratie en Europe. Par contre, ça pose la question de où se trouve le pouvoir à l'Union européenne. Tout à l'heure, vous parliez du traité, des traités notamment. Ce sont les traités qui dominent. Et les traités, ça veut dire que c'est la Commission européenne, en fait, qui a le pouvoir à l'Union européenne. Et peut-être qu'il faudrait rééquilibrer avec plus de pouvoir au Parlement européen. Et je rappelle que les députés européens siègent au Parlement européen. C'est peut-être aussi de là que vient la défiance démocratique vis-à-vis de l'Europe. Mais l'Europe est démocratique. Et j'invite tous les auditeurs à aller voter aux prochaines élections européennes. Il ne faut jamais délaisser les urnes, parce que sinon, on sait comment ça finit, et ça finit jamais bien.
Juste une petite précision, effectivement, la Commission européenne, mais qui suit la feuille de route qui lui est donnée quand même par le Conseil de l'Europe. Donc en fait, quelque part, nos dirigeants nationaux sont aussi responsables des décisions prises directement, puisqu'ils donnent une feuille de route à la Commission. Et donc c'est facile quand on entend les uns et les autres dire « Ah ben, c'est pas moi, c'est la faute à l'Europe ». C'est le titre d'une émission aussi, « La faute à l'Europe ». C'est une émission très intéressante. Et voilà, quoi. Donc, en fait, nos dirigeants, au plus haut niveau, ont une prise directe sur l'environnement européen. Le Conseil ne sort pas ex nihilo des propositions. Non.
L'Europe est partiellement démocratique. Mmh. On ne pourrait pas dire qu'elle en est totalement dénuée. On a en effet un Parlement européen qui est directement élu par les différents peuples, mais on a une Commission qui a une légitimité qui laisse à désirer, qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup plus de pouvoir que le Parlement. Je vais poser une petite question, peut-être que vous aurez la réponse, mais on a un commissaire par État membre. Est-ce que tu connais le nom, par exemple, du commissaire français ?
Non.
C'est Thierry Breton.
Oui, d'accord.
Mais tu interroges 95% des Français, sinon plus.
Oui, oui.
Ça c'est la difficulté de cette Union européenne. C'est qu'il y a une petite dose de démocratie, mais on a aussi une commission qui n'est pas connue et qui a beaucoup de pouvoir. Il faut savoir qu'à peu près 75% des lois françaises nous viennent de l'Europe, avec ce qu'elles comportent de positif parfois, et parfois aussi de négatif, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Est-ce que l'un de vous deux, ou un de vous trois, peut essayer d'expliquer le rôle du commissaire européen ?
C'est l'équivalent d'un ministre en France, dans la République française, quoi, par exemple.
Ouais.
C'est à peu près, hein, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça.
Du coup, ce serait quoi son rôle ?
Alors,
parce que
généralement,
l'équivalent d'un ministre...
Oui, mais normalement, c'est suivre la feuille de route du président du Conseil, qui lui-même la tient... du Conseil de l'Europe, voilà.
Donc, du coup, c'est un serviteur de l'Europe.
Comme un ministre devrait être un serviteur de l'État, tout à fait. Ouais.
Et chaque commissaire a une délégation, une mission. Ouais. Thierry Breton, par exemple, qui représente la France, est en charge du marché intérieur. Vous avez un commissaire qui s'occupe d'agriculture, un autre qui s'occupe des affaires étrangères. Voilà, il y a une répartition des compétences qui se fait, mais qui est parfaitement méconnue de la population.
Ouais. Alors, petite pause musicale sur...
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, une grande dame en noir, Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, eux. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
RLP.
Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite écoute pour avancer là dans l'émission, une petite écoute d'une interview croisée entre Jacques Ozou et Éric Andrieux. Donc Jacques Ozou qui est patron de la communauté d'agglo de Périgueux, du Grand Périgueux, et Éric Andrieux qui est député européen, notamment sur une mission autour de l'agriculture. Et la deuxième, si tu veux bien me... Parce que je sais qu'il a il est dans une autre commission...
Autour des pesticides.
Des pesticides, voilà.
Il a fait un énorme travail autour de la réglementation des pesticides en Europe, notamment sur la question alimentaire et le lien entre l'agriculture, l'alimentation, autour de la toxicité des pesticides.
Merci Clément. On va s'écouter ça.
RLP.
La bonne question.
Les partis ont tendance à recycler leurs perdants à la députation européenne. Et j'ai l'impression qu'effectivement, vous ne prenez pas, vous, les partis politiques français, au sérieux la question de l'Europe. Voilà.
Mais vous avez raison. Hein. Alors, le recyclage, ce n'est pas lesquels. Il n'y a que les moyens de recycler et d'autres partis qui n'en ont plus les moyens. Oui. Voilà. Moi, je suis parti d'un parti qui n'a plus trop les moyens de recycler. Mais vous avez plutôt raison. C'est-à-dire que c'est un problème de conscience politique et d'immaturité politique. Les partis politiques français, au regard des enjeux que l'on vient de décrire, je pense, font preuve d'une immaturité politique, donc par souci de repli sur soi, globalement. Or, je le redis, je pense que 95% des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, je me répète, je m'en excuse, hein, sont de niveau international, et on ne les réglera pas sans considérer le niveau européen comme un niveau majeur pour répondre à nos attentes.
RLP.
Vous pouvez me donner le nom de votre député européen ?
Il n'y a pas d'attachement régional aux députés européens, tout à fait. Ouais, il n'y a pas d'attachement local.
En clair, qui c'est qui est député européen ? C'est ceux qui ont été battus aux élections directes.
Tout à fait.
Et on leur donne un sucre d'orge pour compenser le fait qu'ils ont été battus.
RLP.
Donc voilà, c'était assez clair La première personne, donc, c'était Stéphane qui interrogeait et Éric Andrieux qui répondait, et ensuite Jacques Ozou. C'est assez clair. Hein, pour eux, les députés sont des gens qui ne sont pas les premiers élus du peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit, là ?
Je ne sais pas si le terme de deuxième rang est approprié. J'aime pas beaucoup, en fait, cette manière de concevoir, forme de hiérarchisation. Je crois qu'il n'y a pas de petit élu. Quand vous servez l'idéal démocratique, que vous devenez un élu, ce qui est sûr, je ne sais pas si vous êtes premier ou deuxième rang, mais vous êtes en première ligne. Ça, c'est clair. Et je crois qu'il faut séparer la question de la tête de liste, de la liste. Il faut différencier les deux. Et c'est vrai que traditionnellement, le mandat de député européen, il offre moins de visibilité qu'un mandat national. C'est ce qu'on considère comme un incubateur. Souvent, on envoie de jeunes élus à l'Union européenne, des nouvelles têtes qui sont désignées pour mener des campagnes qui sont souvent difficiles à mener et qui ne soulèvent pas une grande ferveur chez nos concitoyens. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Deuxième rang, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les élus sont en première ligne, ça c'est sûr.
Je dirais que sur ce sujet, c'est en effet difficile de faire une généralité. Il y a deux sortes d'élus. Vous avez effectivement un certain nombre d'élus qui sont recyclés, battus à des élections et recasés à l'Union européenne, et chaque parti a les siens. Et il y a aussi un certain nombre d'élus, ça a été le cas lors de la dernière européenne, et peu importe ce qu'on pense des uns et des autres, mais qui avaient une envergure peut-être plus nationale. Je vais vous donner trois exemples. Raphaël Glucksmann, qui est un socialiste, philosophe d'un bon niveau, comme son homologue François-Xavier Bellamy, et prenons quelqu'un qui monte en puissance dangereusement, qui est Jordan Bardella, et dont on ne peut pas dire que c'est un recalé ou un second couteau. Donc c'est vrai ce que tu dis en partie, mais il faut peut-être faire preuve d'un peu de nuance pour les raisons que je viens de dire.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence au niveau de l'Europe si on envoie... Alors, j'entends bien que pour certains partis, pour toi, Basile, dans certains partis, ils vont envoyer leur émissaire, ils vont envoyer leur tête de liste. Mais si effectivement on envoie des gens qui sont plutôt des gens qui n'ont pas passé les élections nationales, qu'on les envoie sur l'Europe, quelles conséquences ça peut avoir en termes de représentativité et en termes de poids dans les commissions européennes ? Clément, je sens que tu as envie de répondre.
Oui. Hein.
Allez, vas-y.
Bon, je résumerai d'une phrase assez simple. C'est laisser aux autres la possibilité de décider pour vous. Parce qu'en fait, depuis 1979, on a donc un taux d'abstention qui frôle maintenant les 60%. C'était 40% en 1979. Donc ça veut dire qu'il y a un désintérêt. Ça, c'est factuel. Ce sont des chiffres. Un désintérêt de la population pour cette élection. Mais quand vous laissez les autres la possibilité de décider pour vous, c'est confier l'avenir collectif des nations, des continents, à des hommes ou des femmes qui peuvent avoir des projets sombres pour ce continent. Donc je dis clairement, c'est laisser la place aux populistes, c'est laisser la place à l'extrême droite, et on voit d'ailleurs que c'est une élection où ils performent particulièrement, historiquement, alors que nous, au Parti Socialiste, nous sommes européens convaincus. On croit en l'Europe, on croit en l'idéal de l'Europe, et c'est difficile, il faut se battre pour transformer l'Europe, c'est pas facile. Mais voter pour un parti qui critique l'Europe et qui vient siéger pour finalement réduire son champ d'action, en tout cas l'emmener vers des chemins qui ne sont pas forcément ceux que nous on propose, je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Donc voilà, on a l'habitude de dire que l'extrême droite, ce sont des fausses réponses à de vraies questions. Je préfère qu'on essaye de trouver des bonnes réponses à des vraies questions.
Oui, je voudrais répondre. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il est forcément populiste et qu'il a forcément tort. C'est pas parce qu'il n'est pas forcément contre l'Europe, mais contre une certaine forme de l'Europe. Vous voyez ce que j'essaye d'exprimer ? C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une doxa, et si on n'est pas pour cette Europe, on est contre. Et là, moi, je ne suis pas d'accord en tant que citoyen. Hein, l'émission, on l'a appelée « Une certaine idée de l'Europe ». On aurait pu dire « Une autre Europe est possible ». C'est sûr que les gens qui parlent de Frexit et tout ça, bon, sont peu audibles et puis sont pas forcément très sérieux. Maintenant, on est en droit quand même de critiquer l'Europe, la critiquer de façon virulente, mais sans pour autant tomber dans le populisme, l'extrémisme. Voilà quoi, je crois que c'est même au sein des partis, je dirais, majeurs. Là, effectivement, il y a des lignes de fracture qui se font, mais je me souviens d'un temps où, par exemple, les ancêtres de LR, le RPR, il y avait des lignes de fracture sur la question européenne qui existaient. Et voilà, et on ne traitait pas l'autre de populiste ni d'extrême droite, quoi. Et pourtant, il y avait des lignes de fracture qui existaient. Et je pense qu'il serait, quelque part, au sein du PS, au sein de la REM, d'avoir des fractures, des lignes de fracture, enfin des lignes de dissonance qui se font, serait quelque chose, ça serait plus audible pour les humbles électeurs que nous sommes.
D'abord, rebondir sur ce que dit Stéphane, je partage ton propos, mais il y a effectivement plusieurs clivages qui traversent la politique nationale, il y a le clivage droite-gauche, qui a un sens, mais ça n'est pas le seul. Et c'est vrai que, notamment en 92, mais aussi en 2005, il y a eu une division à l'intérieur même des partis, à droite. Deux exemples emblématiques, Simone Veil, qui a beaucoup porté l'Europe, qui est d'ailleurs une grande dame, Seguin et Pasqua, qui s'y sont opposés avec force. Et ça a été vrai aussi du côté du Parti socialiste, où Mitterrand était en première ligne pour défendre un traité, et où il avait face à lui d'anciens camarades comme Chevènement. Donc cette fracture, elle existe depuis longtemps, elle existe toujours aujourd'hui. Effectivement, le débat sur l'Europe, même si c'est parfois compliqué, il ne doit pas être un débat manichéen. Est-ce qu'on veut toujours plus d'Europe, une Europe fédérale à laquelle, personnellement, je suis très opposé. Moi, je suis attaché à une Europe des nations. Est-ce qu'on veut un Frexit? Je pense que ce n'est pas non plus une solution. L'Europe a beaucoup d'aspects positifs, mais la question, c'est comment faire évoluer l'Europe de l'intérieur? Moi, je me définis comme gaulliste social. J'ai réécouté pour cette émission le discours de Seguin en 1992, qui est un discours visionnaire, où il ne dénonce pas l'idée d'Europe, où il dénonce une certaine Europe, il dit oui à l'Europe, mais une Europe debout, une Europe qui protège les peuples, qui protège les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Et donc, à mon avis, ce qui est important, c'est d'avoir ce débat dans la nuance et pas quelque chose, effectivement, de manichéen. D'un côté, les ultra-pour, de l'autre, les ultra-contra.
On l'a bien compris sur la position. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cette Europe qu'on n'est pas européen. Ok, ça s'entend. Mais je vais revenir pour que tu puisses répondre, Basile, sur la question qui avait été posée, sur laquelle Clément a répondu. C'est quelles conséquences ça peut avoir, ça, d'envoyer des gens, pas de seconde main, pardon pour le mot, mais des gens qui ne sont pas des têtes de liste.
La difficulté que ça peut poser, c'est que ces élus dont tu parles n'ont pas forcément tous une voix qui porte. Donc leur parole est moins écoutée, elle est moins relayée. Et donc la décision est moins connue, alors même qu'elle a des conséquences très importantes, puisque je le disais tout à l'heure, voilà, 70% de nos lois, elles proviennent de l'Europe. Disons que le fossé va en grandissant, et il y a un gros problème, voilà, de connaissance de l'information, donc aussi de légitimité.
Alors, ça me pousse à la question sur les partis politiques, prêtent-ils suffisamment d'importance, du coup, à l'Europe? Parce que vous avez un petit peu abordé la même réponse sur le fait que les gens seraient moins écoutés, auraient moins d'influence, en gros. Est-ce que les partis politiques y prêtent suffisamment d'importance à l'Europe, au niveau national?
C'est ce que je disais tout à l'heure, on parle beaucoup d'Europe au moment des élections européennes, mais on n'en parle pas le reste du temps. Et c'est problématique, compte tenu du poids de l'Europe dans nos vies.
Ouais. Et les partis, du coup, là-dedans, est-ce qu'ils auraient un rôle de médiateur, d'informateur, d'initiateur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme rôle?
Ils peuvent en parler davantage dans le débat public, écrire des tribunes, mettre le curseur sur ce sujet, ouvrir un débat sur l'Europe pour trancher ces questions dont on a parlé.
Oui, parce qu'ils savent parler du panier de la ménagère, mais on l'entend toute l'année, le panier de la ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans, mais l'Europe.
L'Europe, j'ai envie de dire, il faut revenir au fondement de ce qu'est la politique et de ce qu'est l'essence même de l'Union européenne. Donc chacun a ses références. Moi, ma référence, c'est Jacques Delors. Basile parlait tout à l'heure du général de Gaulle. il faut reprendre ce que c'est que le moteur de l'Europe. Le moteur de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. D'accord. Donc, quand le couple franco-allemand a des ambitions pour l'Europe, alors se met en place des choses qui sont positives. Airbus, Ariane, les programmes Erasmus. Et puis, quand les Français ou les Allemands ont décidé de délaisser ces grands projets, ces grandes ambitions portées par, par l'Europe, eh bien, on est dans, dans un moment démocratique un peu plus faible. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, il faut que la France et l'Allemagne... Alors, ça appartient à notre président de la République, Emmanuel Macron, et au chancelier Olaf Scholz, de se poser, de se réunir, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe. Et je crois beaucoup aux vertus, en fait, du dialogue entre la France et l'Allemagne pour créer vraiment une dynamique qui soit positive pour le continent. Et ça viendra que de la France et de l'Allemagne, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a perdu le Royaume-Uni.
Stéphane. Justement, je suis parfaitement en osmose avec tes propos. J'ai, dans ce que j'exposerai plus tard, quelque chose sur l'axe franco-allemand. Et franchement, je n'ai rien à retoucher à ce que tu viens de dire. Si tout le PS pouvait penser comme toi, ça m'irait très bien. C'est vraiment... Non, tu as très bien défini, en quelques mots, l'axe franco-allemand. Tu as parlé des programmes de coopération qui ne sont pas européens dans la structure, qui sont d'abord des programmes... Je connais très bien, mon père travaillait dedans... qui sont des programmes bilatéraux qui deviennent multilatéraux, qui se construisent comme ça au fur et à mesure, Ariane par exemple, voilà. Et ce n'est pas les institutions européennes qui ont décidé de faire Ariane. C'était des projets franco-allemands, Airbus pareil, hein, le GIE qui avait été créé comme ça, entre les Français et les Allemands, viennent d'autres partenaires qui viennent s'agréger, c'est exactement... Je n'ai rien à redire à tes propos. Parfait.
Voilà. Je rajouterai quelque chose. C'est la question institutionnelle. Ce qui fait du défaut à l'Europe, c'est que l'Europe, c'est un coupable idéal, en fait. L'Europe, elle a souvent ce rôle de coupable sur lequel on aime bien taper. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe, l'institution, elle est incarnée. D'accord ? Donc ce sont les hommes et les femmes qui construisent l'Europe. Et donc, critiquer l'institution, c'est une chose. Mais je crois qu'il faut d'abord se dire que ce qui donne du sens, ce qui donne corps, vie au projet européen, ce sont des hommes et des femmes. Et donc, ça ne dit rien de critiquer l'institution de ce qu'on peut en faire. Donc, c'est à nous, jeunes politiques, avec Basile, à construire l'Europe de demain et à essayer d'en faire un projet qui soit intéressant et qui touche les gens.
Ok. Du coup, on va passer... c'est intéressant parce que vous avez avancé du coup d'un cran dans l'émission, me faisant squeezer les questions d'avance. Mais c'est intéressant. Petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle L'Air de Rien, dont le titre est L'Europe.
RLP. J'ai parcouru l'Europe en autostop. Je me suis arrêtée pour rêver. J'ai parcouru l'Europe en autostop. Je me suis arrêtée pour rêver qu'avec Pascal je faisais du cheval au Portugal, qu'avec Lauriane je grimpais les montagnes de toute l'Espagne. J'ai parcouru l'Europe en autostop. Je me suis arrêtée pour rêver. J'ai parcouru l'Europe en autostop. Je me suis arrêtée pour rêver qu'avec Jean-Marc je ramais dans une barque au Danemark, qu'avec mon sourd je roulais en poids lourd au Je me suis arrêtée pour rêver. J'ai parcouru l'Europe en autostop. Je me suis arrêtée pour rêver qu'avec Marie je chaussais des skis en Italie, qu'avec Norbert je faisais de l'hélicoptère. Je me suis arrêtée pour rêver.
De retour sur RLP dans La Bonne Question. Est-ce que tu veux parler de l'axe franco-allemand maintenant?
Oui, oui.
Et après, je reviendrai sur les questions un petit peu terre-à-terre entre élus et citoyens.
Un peu improvisé comme ça, mais on va parler de l'axe franco-allemand. J'avais fait un petit topo pour en parler avec monsieur le député européen. L'Europe est née de la volonté conjointe de la France et de l'Allemagne de soigner les cicatrices de la guerre. De Gaulle, Konrad Adenauer, Mitterrand, Helmut Kohl. Elle s'est concrétisée dans des projets communs d'envergure, aéronautique, Transal, Airbus, spatiaux, satellites Safony, Ariane. Souvent des projets bilatéraux qui deviennent multilatéraux. 1989 est marqué par la chute du mur de Berlin. La hausse politique des Allemands change de perspective. L'Allemagne retrouve son poids et sa position centrale en Europe. Les Allemands prennent les rênes de l'Europe au détriment de la France. Nos différents dirigeants n'ont-ils pas été faibles face à l'ogre Angela? Pour finir, ne payons-nous pas aujourd'hui les errements des Allemands à propos de politique énergétique et de leur relation avec les Russes? Et ma question, c'était, peut-on parler de la fin, d'une fin de noces pour le couple franco-allemand?
Ça va pour le point historique. Est-ce que vous voulez commenter, pardon, ce que Stéphane... Non. Moi, ça me fait me poser la question de l'illusion qui est vendue sur cette notion d'alliance, de couple. Les projets qui ont fait émerger l'Europe, pour le moment, ce ne sont pas des projets de vivre ensemble. Moi, ça m'interroge, et je vais le dire avec mes mots, je m'en fiche en fait que l'Europe se construise par des alliances autour d'Airbus. Par contre, ça m'intéresse plus quand j'entends parler d'Erasmus, quand j'entends parler que la personne qui va me servir a le même salaire, le même taux horaire que moi. Je pense qu'il y a une désillusion qui s'est installée avec cette Europe-là. Alors, je suis d'accord avec Éric Andrieux, parce que l'Europe administrée, c'est que 70 ans d'âge. Donc effectivement, ça peut prendre du temps. Mais par rapport aux premières questions, est-ce que nos représentants nous représentent vraiment? Est-ce que la démocratie qui s'est mise en place en Europe, on en est blasé en France? Je pense que la désillusion, elle est sur ces deux points. Des objectifs qui sont de l'économie et des fonctionnements qui sont des systèmes de représentation qui ne nous représentent pas. Est-ce que quelqu'un veut commenter
C'est une critique qu'on entend beaucoup, mais pas simplement sur les institutions européennes. On parle aujourd'hui d'une crise démocratique, d'une crise de régime même. Pour moi, je suis plutôt un défenseur de la Constitution, la 5e République. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'on a des institutions, elles sont là, elles protègent, mais elles ne disent rien de comment on les fait vivre. Et donc ça appartient aux hommes et aux femmes politiques, de faire vivre les institutions de la République. Certains peuvent y voir des déni de démocratie, on pense au 49-3. C'est sur ça qu'il faut qu'on s'interroge. C'est comment nous faisons vivre les institutions, pas les institutions en tant que telles. Les institutions ne sont que des outils. Et les outils, vous en servez bien ou vous en servez mal. Voilà.
Basile ?
Je partage ce qu'a dit Clément sur ce sujet. Sur l'Europe, effectivement, moi, je relisais aussi un discours de Mendès France dans les années 50 qui dénonçait cette Europe... libérale, cette Europe qui n'était qu'un marché, c'est une dérive à laquelle on est en train d'assister. Je le répète, mais il faut de la protection. Et puis, il faut aussi réfléchir à comment rendre demain l'Europe indépendante. Indépendante des États-Unis doit se poser, par exemple, la question de notre défense. Mais ce sont un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra qu'on se penche si on veut demain redonner de la légitimité à l'Europe.
Stéphane.
La défense, mauvais souvenir pour Pierre Mendès France. Hein.
Aussi, oui, c'est vrai.
La bien CED sûr. A fait,
oui, tout
l'a
à fait.
Tomber.
Tout à fait.
Moi, je ne vois pas comme une dérive. Je l'ai analysé, alors humblement, hein, comme le péché originel de l'Europe. Et j'avais fait un petit topo là-dessus. De la CECA au titre 3 du projet de constitution européenne, en passant par le marché commun et la monnaie unique, l'Europe s'est construite principalement autour de la notion de production et d'affaires. Sûrement au détriment d'autres aspects. Monsieur Andrieux nous avait argué de la reconstruction, ce qui n'était pas faux. Hein. Le premier rôle de l'Europe, c'était de reconstruire. Hein. Mais depuis le temps, la reconstruction, je crois qu'elle s'est faite. Alors après, le pan social de l'Union européenne est quasiment inexistant. Pas de salaire minimum, pas de vraie législation européenne concernant la protection des salariés. Pire, elle encourage le dumping social en son sein, exemple de l'Irlande, et de l'optimisation fiscale, hein, avec le Luxembourg, voilà. Et aucune harmonisation de fiscalité des entreprises. Donc c'est un peu la loi de la jungle, voilà, c'est le libéralisme dans toute sa splendeur, l'ultralibéralisme, mais côté protection sociale, rien à l'horizon.
Oui, le modèle social européen qui était fondé dans les années 50, il reposait sur deux piliers. Le premier, c'était le pilier économique, et le deuxième, c'est le pilier de la justice sociale, qui était fondé sur le principe même de la sécurité sociale. Et on avançait au niveau européen avec ce qu'on appelait le progrès économique et social. Quand on demandait par sondage à l'époque l'avenir, comment on imaginait l'avenir, les Européens répondaient plus rose que noir. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que l'ambition sociale a été mise de côté. Et le modèle sociétal européen qui repose aujourd'hui essentiellement en effet sur le pilier économique, c'est qu'il faut que ce qu'on porte nous au Parti Socialiste, c'est qu'il faut retrouver l'ambition d'un progrès social qui va rompre avec notamment la logique d'austérité. Donc à la fois retrouver l'idéal européen en remettant de la justice sociale au cœur du projet européen, ça c'est indispensable, et puis reconstruire l'ambition européenne autour de grands projets fédérateurs. Je parlais tout à l'heure d'Ariane, d'Airbus, mais la première PAC aussi qui était une réussite, les autres un peu moins. Donc des grands projets fédérateurs, c'est l'Europe de la défense, l'Europe de la santé. On a vu que la souveraineté médicale pour la crise du Covid nécessitait un échelon européen. Parler de l'Europe de l'écologie et d'une économie de la prospérité du continent qui passera par la croissance verte. Et puis c'est l'Europe de la protection sociale qu'on attend et qui reste à construire pour mettre fin en effet au dumping fiscal de certains États membres.
Basile, tu veux commenter ? Non ? On va écouter une interview donc... On a interviewé donc Éric Andrieux sur sa vision de ce que doit être, de ce qui doit être touché sur l'Europe.
RLP, la bonne question.
Qu'est-ce que vous changeriez là pour que s'engagent des choses qui servent vraiment à la population ?
Alors moi, ma première mesure, ce serait de changer l'indicateur qui gère, si vous voulez, les politiques mondiales. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète. Tout est organisé, toute l'économie monde est organisée, je me répète, autour d'un seul indicateur qui est le produit intérieur brut, le PIB. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se reposer la question du sens et du vivre ensemble, quoi, en disant est-ce que vraiment c'est ce seul indicateur-là qui doit gouverner le monde ? Moi, je ne crois pas.
Quel indicateur vous metteriez ?
Sur le bien-être, sur le bien vivre ensemble, sur les solidarités, etc., qui devrait rentrer et donner le là à un nouveau mode d'organisation sociale et économique. Si on place, si vous voulez, la finance et l'argent comme le seul totem de la réussite, soit en place d'autres éléments qui garantissent la réussite. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que tous les politiques aient pris la mesure de l'enjeu. Voilà ce que je peux vous dire.
D'accord. Et dans une pratique, pratico-pratique, demain, là, je vous donne les clés de l'Europe. Le premier truc que vous changez, j'ai compris, c'est quelque chose d'idéologique et quelque chose de pratique.
Pratique, c'est les ressources propres. Je dote l'Union européenne d'un budget donc autonome. C'est-à-dire, donc, je vais chercher des ressources propres très rapidement auprès des grandes multinationales. Je vais dire un mot un peu vulgaire, mais je le dis avec les gros guillemets qui se sont gavés pendant plus de 70 ans, si vous voulez, donc, pour qu'elles participent du commun. Et je régule, si vous voulez, donc, les politiques publiques avec des décisions politiques pour qu'elles participent à l'intérêt collectif.
RLP.
Ok, retour avec nos deux invités. Donc, question, quoi rectifier ou quoi garder pour une Europe d'actualité ? Qui veut commencer ? Chifoumi ou Clément ?
Bon, vous avez posé la question à Éric Andrieux, qu'est-ce qu'il ferait ? La première chose qu'il ferait. Ouais. Moi, je pense que la question de la sécurité sociale européenne, ça, c'est une vraie question. C'est permettre à tous les Européens de se soigner avec le même niveau de qualité des soins. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Voilà, c'est aussi ça qu'on mesure quand on s'interroge ou qu'on s'intéresse à l'Union européenne, c'est la capacité à faire converger une somme d'intérêts particuliers. Et donc les nations, elles arrivent avec leurs propres problématiques internes, pays, et il faut se mettre autour de la table pour essayer de faire converger à la fois des modèles de vie, des modèles sociaux, des modèles économiques, pour porter des ambitions communes. Donc la première chose que je ferai, c'est vraiment travailler sur la question de la santé. Et on l'a vu, notamment pour le Covid, c'est indispensable au niveau européen.
Et qu'est-ce que tu toucherais mécaniquement pour que ça puisse se faire dans tous les pays, pour qu'ils aient un système de sécurité sociale ?
Il faudrait qu'on passe d'une Europe qui est aujourd'hui une Europe de la concurrence, puisque, en effet, souvent on la résume à un marché financier, un énorme marché financier où il y a des parts de gâteaux à se partager, à une Europe de la solidarité. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire mettre fin au dumping social et à l'évasion fiscale. Puisqu'on voit que certains États, bon, je ne veux pas être coupable, mais je rappelle l'affaire Clear Stream, elle est quand même assez récente dans l'histoire. Et voilà, donc on a ces problèmes-là d'évasion fiscale, et je crois que des ressources pour porter de vraies politiques sociales, sociétales pour l'Europe, on peut les trouver, notamment sur ces sujets-là.
Est-ce que c'est pas ça la désillusion dans cette espèce de libéralisme à outrance?
Quand vous faites de la politique, soit vous considérez les constats comme des désillusions, soit vous dites que c'est des opportunités. Ouais. Voilà. Basile, nous sommes des jeunes politiques, donc on croit qu'on peut changer les choses.
Basile.
Sur l'Europe, moi, je pense qu'il faut revenir à cette idée de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il y a différents échelons. Il y a l'échelon des collectivités, il y a l'échelon de l'État, il y a l'échelon de l'Europe. Et il faut que chacun reste à sa place. Oui, pour une Europe des grands projets, pour une Europe qui permet une harmonisation d'un certain nombre de politiques en matière sociale, en matière d'agriculture. Moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, dans le coin qui sont fraisiculteurs, qui embauchent, par exemple, des personnes issues de pays tiers beaucoup plus chères que ne vont les embaucher les Allemands. Donc il faut une Europe qui se mêle de ce qui la regarde, de son niveau, et le reste, il faut le laisser aux États ou aux collectivités, parce que si on a envie de redonner de la confiance dans la politique, il faut toujours privilégier l'échelon de l'efficacité, mais aussi l'échelon de la proximité. Donc c'est ce que je défends, la subsidiarité, c'est-à-dire de l'efficacité, mais avec le niveau de compétence qui est le plus proche du citoyen.
Du coup, pour toi, l'Europe, c'est un outil, en fait, qui devrait permettre à échanger entre les pays, et ça devrait s'arrêter à ça.
Pas seulement, mais je veux, comme je le disais, d'une Europe qui, par exemple, harmonise les règles en matière sociale pour éviter un dumping entre les États. Je veux d'une Europe, par exemple, qui demain se mêle un peu plus d'immigration pour éviter là aussi qu'il y ait une concurrence entre les États.
Ce serait un des grands projets dont tu parlais tout à l'heure.
C'est
quand tu parles
un des projets possibles, c'est pas le seul.
D'accord.
Je suis pas un technicien de l'Europe, mais je ne veux pas que l'Europe se mêle de sujets qui ne la regardent pas. Il y a quelques années, et je sais que certains technos le souhaiteraient, des technos européens voulaient par exemple supprimer le fromage au lait cru pour que tout soit pasteurisé. Cette Europe-là, je n'en veux pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur des grands projets de l'Europe ?
Moi, j'ai juste une chose. Je ne pense pas que l'immigration ou la sécurité soient des grands projets. Ça fait partie des actions régaliennes.
Où on aurait pu mettre ce que Clément a dit sur la sécurité sociale.
Je pense que quand on parle de vrais projets, moi, je pense JFK, la nouvelle frontière, quelque chose qui fasse rêver les gens. Il a dit, nous irons sur la Lune, et ils sont partis sur la Lune. C'est quelque chose comme ça qu'il faut. Alors, ça ne sera pas la Lune, c'est déjà fait. Mars, bon, on va faire un peu d'originalité, mais quelque chose pour la planète, mais quelque chose qui marque, quelque chose qui fasse que tout jeune citoyen se dise, ouais, je fais partie quand même d'un groupement, d'un ensemble, on a fait ça. Voilà, quelque chose de vraiment...
Donc toi, ce serait sur l'évolution humaine, Clément, ce serait sur l'évolution sociale, et
du coup... Il faut que l'Europe investisse dans l'industrie, ça c'est un gros D'accord. enjeu de nos politiques modernes, et aussi c'est le bon niveau pour engager des moyens voilà, dans la recherche et le développement. Sur ces sujets-là, on doit pouvoir attendre l'Europe.
J'attendais pas une réponse précise, mais ça en est une.
RLP.
Pause musicale, on va écouter Maria Candido, la chanson de l'Europe.
Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de brume. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim. Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime, de grands-pères espagnols avec du sang germain. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes et j'ai tout oublié pour lui tendre la main. Et pourtant, le ciel de nos villages a les mêmes chagrins et les mêmes couleurs. Et pourtant, la mer les mêmes fureurs. avec un peu de brume, venu de l'Angleterre, avec un peu de blé, du pays du soleil, avec un peu de sang, de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait au ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris offrirait en cadeau de Noël. Et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Et pourtant, demain dans nos villages, sur les bancs d'une école, des enfants reliront notre histoire sur un se raconter en couleur de chanson, qui leur sera conté en couleur de chanson.
RLP.
Eh ben, on va revenir sur une des questions sur comment contrer la désillusion, parce que là, si on fait l'agglomérat de toutes les idées qu'il y a eu dans l'émission, il y a quand même cette posture avec le libéralisme en Europe qui gâche un petit peu tous les moyens de progresser, de faire progresser cette Europe. Comment on pourrait contrer la désillusion? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux citoyens demain pour qu'ils rentrent un petit peu plus et qu'ils voient un petit peu plus que cette Europe comme une possibilité ou progression? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer?
Il y a un exemple assez classique, c'est les programmes Erasmus. Mmh. Quand vous parlez à la jeunesse, celle qui participe, qui peut participer, et il faut peut-être aussi aller plus loin. Moi, par exemple, je pense à des programmes Erasmus pour des filières professionnelles. Je crois que moi, ça touche beaucoup des étudiants en licence, en master. C'est très bien. C'est parfait, mais il faut peut-être l'ouvrir un peu plus, notamment aux étudiants qui sont en apprentissage. Bien, les programmes Erasmus, quand vous interrogez les jeunes, ça donne du sens à l'Europe. Une mobilité éducative, bien, on va découvrir ce ferment-là. Être européen, en fait, ça se construit, ça ne se décide pas. Tout à l'heure, je disais au début de l'émission, on est d'abord européen. Bon, on est français, on est périgourdin, bien sûr, forcément, puisque on est les Chauvins, on aime la Dordogne. Mais on est aussi européen. Mais ça veut dire quoi être européen? Voilà. Et donc je crois que passer par la jeunesse, c'est passer par l'espoir et par l'avenir. Je crois assez intéressant d'imaginer l'Europe de demain. C'est bien d'en parler. Mais c'est aux jeunes aussi à la construire, cette Europe de demain.
Je suis parfaitement d'accord. Et moi, j'avais, à part ma nouvelle frontière, j'avais autre chose. Effectivement, augmenter les échanges de population, surtout pour la jeunesse, mais pas exclusivement. Et voire de les rendre obligatoire, dans son cursus, quel qu'il soit, qu'on soit obligé d'aller à un pays, deux pays, échanger. Et ça permettrait...
Une forme d'intérim du grand remplacement?
Mais non, je ne parle pas pour la production, je parle dans ton cursus éducatif. Mais qu'on pourrait attaquer à partir du collège, à partir du lycée, les gens qui sont en apprentissage, effectivement, qui sont quasiment exclus de ce genre de... sous prétexte qu'ils ne seraient pas assez intellectuels. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment se sent européen. Je reprends ma citation de Renan, c'est la citoyenneté, hein, la conscience d'appartenance, c'est un plébiscite de tous les jours. Et ça, il faut l'entretenir ben, par la circulation d'idées, par la circulation de personnes. Il n'y a que ça à faire.
Vous avez un endroit à Paris qui s'appelle la Cité Internationale, qui regroupe des étudiants du monde entier, beaucoup d'Europe, et vous avez des maisons, la maison des Pays-Bas, la maison de l'Allemagne, la maison de la France, et ça fait un village, en fait, dans Paris, et j'invite les auditeurs qui iront à Paris prochainement à aller à la Cité Internationale, et vous allez comprendre comment on donne du sens à ce qu'est être européen aujourd'hui, par la jeunesse. Je crois que ça, c'est vraiment un projet qui était magnifique, sorti de la Seconde Guerre mondiale, a créé la Cité Internationale de Paris, et vraiment, c'est un lieu magnifique qui donne du sens à l'idéal européen.
Et l'idée de Stéphane, moi, j'apprécie hein, qu'on ne l'arrête pas, je suis d'accord, pour que la jeunesse en profite en premier lieu, mais que ça ne s'arrête pas à la jeunesse, mais que tout au long de la vie, on puisse, comme l'éducation, avoir le droit à aller voir... mais qui nous sommes aussi ailleurs, donner ce droit.
Et j'ai l'impression, dans les années 70, moi qui suis des Mureaux, donc avec une diversité énorme. Je me souviens que la municipalité avait envoyé des jeunes issus de l'immigration, des jeunes copains, beurre, black, les avait envoyés en Allemagne, accueillis dans des familles. Alors ça fait un choc quand même, parce qu'en plus dans une zone très, très bourgeoise allemande. Et ça s'était super bien passé et ils en étaient rentrés enchantés. Et ça faisait travailler la citoyenneté européenne, mais aussi leur propre citoyenneté française, qui n'était pas évidente pour eux.
Basile, je te voyais lire un petit article. Est-ce que tu as une idée supplémentaire à nous ?
Non, les idées qui ont été développées sont intéressantes. Moi, j'en reviens à l'essentiel. On est évidemment tous européens, on sait ce qu'on doit à l'Europe. On est aussi, je suis aussi patriote, périgourdin bien sûr, mais il faut revenir à l'Europe des nations, c'est-à-dire chacun à sa place, et il faut profiter des prochaines élections européennes pour chaque parti, pour mettre des personnes qui donnent envie et qui soient en capacité demain de porter une voix forte au Parlement européen. C'est ça la solution.
Très bien, très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir été sur l'émission. Est-ce que vous avez des livres, vous, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices sur l'Europe ?
Il y a un livre de Timothy Snyder qui doit dater de 2017-2018 qui s'appelle Le destin de l'Europe. Et qui est extrêmement intéressant, qui est toujours d'actualité. Et puis Le nouveau concert européen de Jacques Delors, qui est aussi une bonne base pour comprendre ce qu'est l'Europe et ce qu'elle peut devenir. Voilà, ça n'a pas pris une ride.
Basile ?
Moi, j'ai envie de conseiller trois livres. Un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, mais qui m'a marqué, c'est « Le monde d'hier » de Stefan Zweig, qui a été écrit en 1941 et qui montre à la fois quels sont les dangers naissants, mais aussi les espoirs d'une personne qui a côtoyé Freud, Paul Valéry. Enfin, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Un deuxième livre, parce que je pense qu'il faut toujours en revenir à l'histoire, ce sont les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir du général de Gaulle, qui est un livre qui raconte justement cette période de la guerre, cette période de la construction européenne. Et un dernier livre, parce que c'est quelqu'un qui était pour moi un visionnaire, c'est le discours du non à Maastricht de Philippe Séguin, qui était écrit en 92 et publié, qui disait oui à l'Europe, mais une autre Europe, une Europe qui protège et une Europe qui compose avec les peuples, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas en tout cas aujourd'hui.
Stéphane ?
Je n'ai pas de titre en particulier, mais je pense qu'il faut aussi se replonger dans l'histoire et voir l'Europe non pas sous le prisme des dernières décennies, il faut aller revenir plus en arrière. Je parle beaucoup du monde grec. Les Grecs avaient la même problématique. Ils étaient des cités indépendantes, mais il y avait le panhellénisme, ce qu'on appelait le panhellénisme, quelque chose de commun, diffus, pas très définissable. Mais c'était quelque chose qui... l'Europe, c'est un peu ça actuellement. Voilà.
Alors moi,
un pan-européanisme, ça serait bien.
D'accord. Moi, je conseille une BD qui s'appelle « La République de Socrate », vue expliquée par Platon. Voilà. Il va être temps de se dire au revoir. Merci aux auditeurs de nous écouter, aux auditrices de nous écouter. Donc, merci à vous. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant cet au revoir ?
Bon, le petit mot de la fin, c'est aujourd'hui, c'est la droite qui dirige l'Union européenne. On a des élections l'année prochaine. Donc, j'espère que les sociodémocrates feront le meilleur score possible pour changer l'Europe.
Et vice-versa, je suppose.
Je souhaite tout simplement que l'Europe retrouve le sens des réalités et le sens de la démocratie.
Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Merci Stéphane, merci Simon. À une prochaine fois dans La Bonne Question.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâce au secours ! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.